Vous écoutez RFI, il est 7h30 à Paris, 8h30 à Lubumbashi, 9h30 à Nairobi. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Andréane et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une, que s'est-il passé la semaine dernière entre Douala et Bangui? C'est la question à laquelle les autorités centrafricaines tentent de répondre. Un camionneur est mort lors d'une attaque sur la route et depuis, les transporteurs refusent de passer la frontière. Plusieurs syndicats pointent la responsabilité des paramilitaires russes dans cette affaire. Inéligibilité confirmée pour Mahamat Zenbada au Tchad. Le Conseil constitutionnel a dévoilé la liste définitive des candidats aux législatives du 29 décembre prochain, élection boycottée par une large partie de l'opposition. La RDC mérite d'aller dans un régime présidentiel, déclaration signée Blanchard Bongombe. Le secrétaire général du parti d'opposition Nouvel Élan se dit favorable à une révision de la Constitution, oui, mais pas sans condition, vous l'entendrez. Au sommaire également, on évoquera la pénurie de carburant à Brazzaville, puis cette journée décisive au Mozambique. Les quatre candidats à l'élection présidentielle du 9 octobre doivent rencontrer aujourd'hui le président. L'opposition veut bien discuter, mais soulève un certain nombre d'exigences. Et puis le dossier de cette édition nous emmène à Madagascar. On évoque l'architecture traditionnelle malgache, un patrimoine précieux, mais trop souvent oublié. C'est un bras de fer qui dure depuis près d'une semaine. Les camionneurs camerounais refusent de passer la frontière centrafricaine pour desservir Bangui. À l'origine de ce mouvement, la mort de l'un de leurs compatriotes sur la route la semaine dernière. Ce week-end, le ministre camerounais des Relations extérieures a même fait le déplacement à Bangui. Le jeune Belham Bella a porté un message spécial du président Biya à son homologue Faustin Archange Touadéra. On ne connaît pas les détails de ce message. En attendant, Charlotte Cosset, l'enquête pour élucider les circonstances du décès est en cours.
La section de recherche et d'investigation de Bangui, selon son rapport rendu public, s'est déplacée sur les lieux le lundi 18 novembre, juste après les faits. Selon son compte rendu, les paramilitaires russes sécurisaient un convoi de camions en provenance de la frontière lorsqu'il aurait été attaqué sur la route à proximité de la ville de Boili. Les auteurs ne sont pas identifiés, indique le document. Plusieurs syndicats de transporteurs camerounais pointent eux la responsabilité directe des éléments russes dans la mort de leurs collègues. Dans un communiqué, le ministre centrafricain des Transports, Gontran Djonoaba, assure que l'organisation de la sécurité des conducteurs et des marchandises voyageant sur ce corridor est une priorité pour le gouvernement centrafricain. Les syndicats de chauffeurs se plaignent de difficultés récurrentes sur cette route, malgré la taxe de convoyage de 25 000 francs CFA par trajet et par camion qu'ils acquittent. Des tracasseries en provenance également des éléments censés les sécuriser. Le corridor Douala-Bangui est la voie principale de ravitaillement de la capitale centrafricaine qui importe massivement depuis le Cameroun carburant et denrées alimentaires.
Charlotte Cosset, on connaît la liste définitive des candidats aux législatives du 29 décembre prochain au Tchad. Élection boycottée par une large partie de l'opposition. Hier, le Conseil constitutionnel a dévoilé ses conclusions et confirmé l'inéligibilité du secrétaire général du MPS, le parti de l'ancien président Déby, aujourd'hui principal soutien de son fils et successeur. Mahamat Zenbada ne pourra donc pas se présenter. Carole Valade.
Le Conseil constitutionnel confirme la décision de l'agence électorale d'écarter la candidature de Mahamat Zenbada. Le secrétaire général du MPS, condamné en dernière instance pour détournement de fonds publics, n'a bénéficié d'aucune réhabilitation. De plus, Mahamat Zenbada affirme être à la retraite depuis mars 2023, alors qu'il a été promu au grade de contrôleur général de police 6 mois plus tard. Le Conseil estime qu'il a dissimulé sa condamnation, qu'il s'est inscrit frauduleusement sur les listes électorales et décide donc de transmettre son dossier au procureur de la République. Il en va de même pour Mohamed Boukhari et Salomon Gaïdro. Le Conseil rétablit en revanche les candidatures de Mariam Djimé Ibet, emprisonnée à plusieurs reprises pour détournement de deniers publics, mais de manière préventive et qui a bénéficié d'un non-lieu et d'une relaxe, ainsi que Wang Launa Fula, qui lui non plus n'a pas été condamné de façon définitive. Carole Valade, Djamena, RFI.
Ces rumeurs sont fausses, communiqué hier de l'ambassade des États-Unis au Gabon, qui dément avoir accordé l'asile à Hervé Patrick Opianga. L'ancien ministre des Mines est introuvable depuis le 20 novembre dernier, date à laquelle il a reçu une convocation de la police judiciaire, convocation restée sans réponse. L'homme d'affaires est également visé par une seconde plainte pour violence, inceste, séquestration et usage de faux. C'est un oui, mais pas sans condition. En RDC, le parti d'opposition Nouvel Élan se dit favorable au projet de révision ou de changement constitutionnel. La formation de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito a soulevé hier plusieurs questions qui devraient être révisées, mais elle demande que la commission préparatoire soit chapeautée par un opposant. Écoutez Blanchard Bongombe, secrétaire général du parti Nouvel Élan.
Nous pensons qu'il faut réviser un certain nombre de dispositions pour nous permettre justement de matérialiser notre politique de la titrisation de terres, l'effectivité de la décentralisation. Nous parlons également du bicéphalisme au niveau de l'exécutif. Aujourd'hui, notre pays mérite d'aller dans un régime présidentiel pour permettre au chef de l'État d'assumer pleinement ses fonctions pour éviter ce qu'on a qualifié de gouvernement parallèle. Mais également, nous parlons de la répartition de recettes à caractère national et provincial. Donc, il y a tas de questions que nous pensons faire apparaître dans la nouvelle constitution. Nous saluons la proposition du chef de l'État de mettre en place une commission préparatoire. Nous pensons qu'elle va devoir travailler de manière indépendante. Voilà pourquoi nous avions estimé qu'il faut qu'à la tête de cette commission soit désigné un opposant de manière à équilibrer les choses pour que les uns et les autres soient entendus, de manière à privilégier ce qui est salutaire pour notre peuple, de manière à avoir une constitution républicaine. On est vraiment dans une démarche républicaine qui consiste à réhabiliter le peuple dans sa souveraineté.
Blanchard Bongombe, secrétaire général du parti d'Adolphe Mouzito, au micro de Pascal Moulégois. Le débat autour du projet de révision de changement de constitution, on en parle aussi avec notre invité ce matin. Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, était sur notre antenne. Entretien à retrouver en longueur sur l'application RFI Pure Radio. La pénurie de carburant à Brazzaville causée par des réseaux mafieux, c'est ce que disent les autorités. Depuis plus d'un mois, les stations-service de la capitale congolaise ne désemplissent pas. À l'origine de cette pénurie, selon le gouvernement, des Kadhafi ou revendeurs à la sauvette de l'or noir. Devant la presse hier, Thierry Mungala, le porte-parole de l'exécutif, a promis de démanteler ces réseaux.
Je soupçonne, sans être un policier, que cette pénurie est volontairement organisée par un certain nombre de réseaux mafieux. Et je crois que le gouvernement, à travers les ministères en charge des questions de sécurité, fera, et nous l'espérons cette fois-ci de manière assez brutale, la chasse à ces réseaux et le démantèlement des mafieux, des mafias qui aujourd'hui empêchent nos compatriotes d'avoir un carburant de qualité, parce que souvent les Kadhafi coupent ce carburant pour en avoir plus de quantité. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les retours qui nous sont faits en termes de qualité voient beaucoup de véhicules qui n'avaient pas de problème au niveau de leur carburateur ou de leur moteur, qui aujourd'hui, malheureusement, connaissent des dysfonctionnements, ces véhicules, auprès de pas mal de nos compatriotes, à cause de ce carburant que je qualifierais de frelaté. Donc oui, il faut que nous cassions les reins à ces réseaux mafieux.
Propos recueillis par Loïcia Martial. Trouver des solutions pour sortir de la crise, c'est l'objectif d'une réunion déterminante qui doit se tenir aujourd'hui au Mozambique. Rencontre entre le président Felipe Nyusi et les quatre candidats à l'élection présidentielle du 9 octobre. Élection dont la contestation se poursuit dans le pays à l'appel de Venancio Mondlane, le candidat d'opposition déclaré deuxième par la commission électorale. Mais Gaël Lalex, beaucoup de doutes subsiste sur la tenue de cette rencontre.
Sur le principe, ils sont tous d'accord pour dialoguer, mais chacun a ses conditions. Daniel Chapot, candidat du Frelimo, parti au pouvoir depuis l'indépendance et vainqueur de la présidentielle selon la commission électorale, a été le dernier à répondre. Un simple communiqué du parti a confirmé hier sa présence et son engagement pour la stabilité politique du pays. Cette rencontre n'est pas pour le réjouir, car les trois candidats de l'opposition sont d'accord sur un point. Il faudra discuter de l'annulation des élections générales du 9 octobre qu'ils estiment irrégulières. Lutero Simangu, le candidat du mouvement démocratique du Mozambique, et Osufo Momad de la RENAMO, les deux principaux partis d'opposition, en ont fait une condition sine qua non. Ce dernier exige aussi la présence des quatre candidats. Or, celle de Venancio Mondlane, candidat indépendant, semble incertaine. Vendredi, le leader des protestations post-électorales a posé ses conditions, notamment la fin des poursuites judiciaires à son encontre, des indemnisations pour les victimes de la répression policière et une participation en visioconférence. La présidence ne s'est pas encore exprimée sur ses exigences. exigence. La rencontre est prévue à 16h. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
En bref, des centaines de mineurs illégaux toujours retranchés dans une mine à Stilfontein en Afrique du Sud. La police continue de bloquer leur approvisionnement en nourriture. Plus de 1200 Zamas, c'est le nom de ces mineurs, auraient été arrêtés depuis le lancement de l'opération en 2023, d'après les autorités. Dernier rebondissement en date, hier, la haute cour du Roteng a jugé que cette opération policière d'envergure n'était pas anticonstitutionnelle et respectait donc le cadre de la loi. Il est 9h40 à Antananarivo. On passe à présent au dossier de cette édition qui nous emmène ce matin à Madagascar. La Maison des Vivants, c'est le nom d'une exposition qui se tient en ce moment au musée de la photographie de Tana. Rendez-vous culturel consacré à l'architecture malgache et qui met en lumière les maisons traditionnelles. Un patrimoine trop souvent méconnu. Visite guidée de l'exposition avec notre correspondante Sarah Teto.
Devant les maquettes représentant 14 types de maisons malgaches, une visiteuse s'étonne.
Il y en a qui sont en paille, il y en a aussi là-bas en bambou, en bois. Ben pourquoi toute cette diversité ?
Alors, le fait qu'il y ait autant de diversité en termes de matériaux s'explique par les ressources dont disposent les gens qui construisent ces maisons.
Siori Ranjamanonten est le directeur du musée de la photographie.
Dans l'Est, où on a des forêts abondantes, on utilise du bois. Sur les hautes terres, où on a une végétation assez maigre, les gens utilisent de la terre.
Autre curiosité, la hauteur des maisons qui varie parfois du simple au triple.
Cette différence de taille, elle s'explique d'abord par le mode de vie des populations. Il est évident que chez les populations semi-nomades, les maisons sont de petite taille parce qu'elles sont amenées à être déplacées au fil des migrations. Ensuite, il y a l'aspect culturel. Par exemple, chez les Bars, donc population du sud de Madagascar, la maison accueille le mari et son épouse uniquement, sans les enfants. Tandis que sur les hautes terres, la maison accueille la famille élargie. Et enfin, intervient le statut social. Plus une maison est grande, plus elle extériorise la richesse de son occupant.
Malgré toutes ces différences, les maisons conservent des caractéristiques communes.
La maison est systématiquement orientée du nord au sud et la porte tournée vers l'ouest. Et ça, en raison de croyances partagées par tous les malgaches. L'ouest, par exemple, c'est le profane, donc tout le monde peut y passer, contrairement à l'est, partie de la maison considérée comme sacrée, réservée aux ancêtres.
Plus qu'un simple abri privé, la maison malgache traduit donc la culture et l'identité des gens qui l'occupent. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Alors comment l'architecture malgache a-t-elle évolué au fil des siècles ? À ce sujet, on écoute l'analyse de Eliant Radzonarson. Elle est enseignante-chercheuse et directrice du département d'histoire à l'université d'Antananarivo et elle a étudié les différents apports culturels des migrations étrangères sur la grande île au fil des siècles.
Il faut d'abord reconnaître que le fait d'être une île a ouvert Madagascar à différentes influences de l'étranger. Madagascar est entré en relation avec la côte orientale africaine dès le 9e siècle avec ses différents commerçants qui sont venus soit d'Arabie, soit d'Afrique même, comme par exemple des Somalis, de Kenya aujourd'hui, Mozambique ou encore des îles de Zanzibar et Sofala. Et toutes ces personnes, ces commerçants spécialement, venus dans l'île, ont laissé des traces dans l'architecture. Il y a par exemple les portes omanaises qui font une des singularités de la région du Bouin, avec des fers décorés. L'architecture de l'Est de l'Afrique se retrouve à Madagascar à travers ces maisons faites en terre avec un toit en chaume. Il y a aussi les traces de construction austronésienne. Ce sont ces maisons qui sont essentiellement à l'origine des maisons sur pilotis, les maisons en fala sur le littoral est malgache ou encore jusque dans les hautes terres. Et on les date à partir du 7e siècle qui correspond à l'arrivée des premiers migrants. Et donc la maison malgache comporte toutes les traces de ces différentes influences architecturales de l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'Est de l'Afrique.
L'enseignante chercheuse Eliante Radzonarson au micro RFI de Sarah Teto qui signe ce dossier à retrouver sur RFI.fr. C'est ainsi que s'achève ce journal. La suite d'RFI Matin, c'est avec Andréane Mélard.